I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ce premier besoin vital d'être nourri est toujours accompagné d'un désir d'être en lien. C'est important de faire la distinction. Il faut arriver doucement, progressivement à décrypter cette particularité des besoins et des désirs de chaque enfant. C'est pas une marionnette, pas de la pâte à modeler.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un premier épisode hors série sur le développement de l'enfant de 0 à 4 ans. Votre vie de famille est déjà bien chargée, vous cherchez à vous informer mais vous n'avez pas forcément le temps, l'énergie et l'envie de lire les ouvrages de Françoise Dolto et de ses contemporains. Cet épisode est fait pour vous. Avec Elisabeth Pilâtre-Jacquin, nous allons aujourd'hui vous parler des étapes du développement de l'enfant de 0 à 4 ans, afin de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe pour vos enfants en fonction de leur âge, avoir des repères pour discerner ce qui est de l'ordre du « normal », quand tout va bien, et ce qui serait davantage de l'ordre du pathologique, qui nécessiterait alors un accompagnement plus spécifique. L'objectif est aussi de vous aider à mieux les accompagner dans ces étapes charnières et parfois difficiles de leur développement, tant pour eux que pour les parents. Bonjour Elisabeth Pilâtre-Jacquin, vous êtes psychanalyste. Elisabeth, j'entends souvent les parents me dire « paniquer, tout se joue avant 1, 3 ou 6 ans ». Nous savons aujourd'hui, du point de vue scientifique, l'importance des premières années de l'enfant pour son développement futur. Il y a d'ailleurs en ce moment un groupe d'études sur les 1000 premiers jours, composé d'experts de l'enfance qui réfléchissent sur l'amélioration de l'accompagnement des enfants, de leur conception jusqu'à leurs 2 ans, et puis de l'accompagnement de leurs parents. Donc permettre aux enfants de grandir dans les meilleures conditions, c'est une préoccupation bien entendu parentale, mais aujourd'hui aussi politique. Elisabeth, tout d'abord, quelles sont les caractéristiques de cette période du développement de l'enfant de 0 à 4 ans ?
Tout ne se joue pas, mais ça se joue quand même. Mmh. Et je pense que l'important, c'est d'éviter trop grand stress ou de trop vouloir savoir tout sur tout. Ça peut freiner. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se joue ? C'est quand même assez capital parce que se joue la construction de l'identité de l'enfant et une grande partie de son autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un continuum, c'est-à-dire que ça se développe. Il y a des étapes, on va en parler, et il y a des rythmes différents. C'est pour ça que, quand on parle du développement, c'est important d'avoir des repères d'âge, en se disant, à partir de tel âge, c'est important de savoir faire ça ou ça ou ça, mais que les rythmes sont propres à chacun et qu'il ne faut pas s'affoler quand on a le nez sur le programme et qu'on se dit, à 1 an et 3 jours, il n'a pas fait ci, ou à 6 mois, il est encore dans des...
Oui, ce ne sont pas des valeurs absolues,
mais c'est pour
nous aider à penser les choses.
Voilà, c'est une dynamique. Et l'enfant a beaucoup de ressources, il est potentiellement équipé pour devenir chaque chaque petit humain. Petit humain peut devenir un génie, mais les parents doivent accompagner en étant attentifs à ce qui se passe. Et l'enfant envoie plein de petits signaux qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Mais quand on ne comprend pas, on va voir la famille, les amis, les experts, on lit. Il y a toujours du temps. Voilà, l'affolement est vraiment quelque chose de négatif dans cette période. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette durée quoi, de 0 à 4 ans, on passe d'une dépendance totale, puisqu'on était dans le ventre de la mère, donc l'enfant et la mère se confondent quelque part, même s'ils sont séparés déjà dans le ventre. Et ils arrivent à marcher, parler, courir à 4 ans. Donc, c'est une lente mais radicale séparation d'avec le corps et la psyché de la mère en particulier dans les premiers temps. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête.
Et c'est ça qui amène à la construction de l'identité. Du coup, en vous écoutant, voilà. Elisabeth, je me dis, l'image qui me vient, c'est que cette construction, c'est comme une maison finalement, que chaque enfant va construire sa propre maison interne. Voilà. Et voilà, comme toute construction de maison, on commence par les fondations, et puis on construit les étages, puis après on décore la maison à l'intérieur.
Surtout pas oublier les racines, parce qu'un enfant mal planté, mal enraciné, donc c'est aussi être et content et fier de s'aligner, de ses ancêtres, etc. Donc qu'ils existent aussi. C'est pas, on fait beaucoup de hors-sol dans les productions industrielles. Non, l'enfant, c'est vraiment un être enraciné, incarné, et que ces premiers temps, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on s'adresse beaucoup au cerveau avec toutes ces préoccupations, il faut que je sache, mais c'est avant tout un corps, des émotions, des sensations, et c'est ça qu'il faut accueillir, nommer, accompagner pour que l'enfant se développe. Et grandir, c'est apprendre à se séparer par étapes. Et effectivement, dans ces 4 premières années, on a distingué à peu près 3 grandes étapes.
Oui, quelles sont ces 3 grandes étapes alors ?
Alors, de façon un peu pompeuse, on les appelle stades. Hein, stade oral, stade anal, stade génital ou phallique. Donc on va rentrer dans la description de ces 3 stades.
Oui, vous allez essayer en effet de nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit derrière ces termes un peu techniques.
Un peu technique, oui.
Donc cette première étape qu'on peut situer de 0 à 1 an, donc c'est le bébé qui vient de naître.
Le bébé.
Et le bébé, c'est une boule de sensations, d'émotions. Il va s'exprimer à travers des pleurs, des cris, à travers son corps. Qu'est-ce qu'il nous dit à travers tout ça Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour lui?
C'est son mode d'expression majeur. Il s'exprime et capte le monde avec ses 5 sens et tous ses organes. Et donc, c'est un langage qui est compliqué à comprendre. Mais il faut lui faire confiance. À partir du moment où il est né et il a survécu à la naissance, c'est qu'il est apte à la vie d'une certaine façon.
Ouais. Voilà.
Donc, ses 5 sens lui permettent effectivement de capter le monde. Il le sent, il le voit, il le touche, il le ressent aussi à travers ses organes. Et c'est les premières informations qu'il a concernant son propre fonctionnement. Et le premier organe vital et qui va le faire découvrir le monde, c'est la bouche. C'est pour ça que ça s'appelle le stade oral.
Alors peut-être avant de rentrer plus spécifiquement dans le stade oral, quand vous dites sa manière de s'exprimer puis d'entrer en communication au monde, ça m'évoque cette phrase de Françoise Dotto, « Tout est langage ». Donc ça, c'est le langage ou les langages du bébé pour entrer en communication. Là, forcément, ça me fait penser à la question de la relation avec la mère et les fonctions de la mère pour... l'importance qu'elle décode ce langage parce que le bébé n'est pas en mesure de gérer ses émotions. Voilà, il les exprime, mais il ne peut pas les gérer, retrouver un équilibre, il est vite débordé. Là, la mère va avoir un rôle central de l'aider à gérer ses émotions, ses sensations, pour que les choses se passent à peu près bien pour lui.
Alors, il faut savoir que la mère prête sa vision, ses sensations, sa propre expérience de son corps, elle prête au nourrisson. Et c'est un prêt. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que pense, ressent ou voit. D'ailleurs, parce que l'enfant ne pense pas. Il a des images à ce moment-là, des images justement liées à l'ensemble de ses fonctions. Ça gargouille, il a froid, ça fait mal. Et ce sont des images qui se créent, des représentations psychiques qui se créent en relation avec ces parties de son corps qui toquent à la porte de la sensation. Et la mère, effectivement, dès les premiers temps, peut essayer de mettre des mots, mais très souvent, ce sont les mots de ce qu'elle ressent, elle, et qu'elle projette sur son enfant. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle reste dans le positif, qu'elle lui parle de son corps et pas du sien, ou qu'elle ne fasse pas trop d'abstraction. Donc, dans ses premiers temps, c'est rester dans exprimer ce que ressent l'enfant, en tout cas ce que la mère en comprend et en ressent, rester au plus près du corps, des émotions, des sensations. C'est-à-dire éviter les jugements, les grands discours, encore que l'enfant, il peut être baigné dans un discours abstrait, il s'en fiche, c'est la musicalité qu'il va entendre. Donc, ce qu'il entend, c'est une pulsation, une douceur, au contraire, une violence. C'est ça qu'il va entendre dans les premiers temps.
En tout cas, là, vous soulignez l'importance de nommer, en tout cas, que le bébé ait langage et la mère va baigner son enfant dans du langage à travers des mots, finalement, voilà, qui vont venir décoder le langage du bébé.
Avec faire attention, on est trop dans un bain de langage. Et que Madame Dolto disait qu'on déparlait, c'est-à-dire qu'on se met à faire du verbiage à tort et à travers. Donc une mère peut être un peu taiseuse, elle peut ne pas dire grand-chose, mais avec le regard, avec les gestes, avec la présence de son corps, elle signifie parfois beaucoup plus qu'une maman qui va bavarder énormément, mais qui aura mal, qui sera très préoccupée, qui aura tout d'un coup, par exemple, un deuil. Voilà. Donc l'enfant ressent le corps de la mère. Et c'est l'accordage entre le verbe, le mot de la mère et son corps et ses sensations et la situation. Donc c'est vraiment être attentif à ça. On n'est pas obligé de parler. Si on se sent bien avec son enfant et que dans cette présence et cette sensorialité communiquée, la mère rassure. Elle le rassure, elle est là et elle le contient. Parce qu'au départ, si l'enfant crie, entre autres, c'est pour signifier qu'il existe et qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Après, les cris peuvent signifier d'autres choses. Mais c'est cette présence qui est la plus rassurante.
Là, quand vous dites ça, ça m'évoque toutes ces mamans, notamment, que j'accueille dans mon cabinet, sur la question de l'éveil. Et qui vont... c'est quelque chose qui est très... valoriser aujourd'hui, voilà, d'éveiller très précocement les bébés. Alors, dès leur bébé est nourrisson, tout petit, et puis elles vont essayer de faire des jeux, de stimuler l'enfant avec différents objets, jouets, etc. J'entends le risque aussi de la sursollicitation quand vous dites, voilà, aussi de la surparole. Aussi, voilà, le bébé, pour s'éveiller au monde, déjà, le fait qu'il soit là est un éveil au monde. Absolument. Il n'a pas forcément besoin d'être surstimulé en permanence.
Parfois, il a peut-être beaucoup plus besoin d'une présence, même physique, dans la pièce qui se déplace, que de lui mettre 26 milliards de petits objets qui font gling-gling, qui tournent avec des lumières. Parce que cette sursollicitation privilégie certains sens au détriment des autres. Or, on parlait des racines, il faut qu'ils s'enracinent et qu'ils s'incarnent. Les humains sont des êtres incarnés. Si on les surstimule mentalement, ou visuellement, ou auditivement, il y a une dimension corporelle qui leur manque. Donc ils se mettent à un peu partir dans des imaginaires qui les dépassent, qui les saturent, qui les agitent, qui les fatiguent.
Oui, ils vont être débordés.
Voilà, faites confiance. 6 mois, c'est pas gênant. Et puis, si un enfant va bien, spontanément, il va vers le monde, puisque c'est sa survie. La pulsion de vie, c'est aller vers. Donc, à moins d'être très malade, donc un repli, une difficulté importante, va signaler que l'enfant, éventuellement, est dans une lenteur qui veut peut-être dire quelque chose. Mais normalement, l'enfant, pour se développer, il va vers le monde. Et ça, vraiment, c'est inscrit, j'allais dire, dans la constitution psychique, physique, biologique, ce qu'on appelle les pulsions, c'est ce qui pousse. Une pulsion, ça pousse pour aller appréhender le monde, le découvrir et le faire sien. Donc la mère est un vecteur, le père aussi, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, il ne faut pas faire s'angoisser. C'est-à-dire qu'un enfant, ce n'est pas une marionnette ni un objet qu'on fabrique. Aujourd'hui, on fabrique beaucoup parce qu'on est intelligent, donc on comprend les mécanismes, donc on veut fabriquer. Un enfant, non, ça se déploie, ça se développe, ça évolue, mais il faut lui faire confiance. Et si on ne lui fait pas confiance, on peut l'étouffer. Soit dans une agitation, soit dans un retrait total. Donc, voilà, calmons-nous, laissons-lui le temps, parce que ça va très vite.
Oui, en effet. Et on va bien voir hein, que là, entre 0 et 4 ans, il se passe quand même. Et déjà, là, voilà, le tout petit bébé, il se passe plein de choses pour lui. Donc là, vous nous disiez bien, cet accordage affectif, comment la mère et le bébé, petit à petit, vont réguler ensemble leurs émotions et où la mère voilà, va permettre, à travers le langage, à travers sa présence, à travers les soins. Là, je pense à la question voilà, de la contenance, le fait de porter le bébé. Voilà, vous parliez du corps, hein, ça passe aussi par ça. Comment voilà, l'un et l'autre vont interagir et trouver un équilibre ensemble. Souvent, j'entends les mamans voilà, être très angoissées parce que, justement, dès la grossesse, on leur dit qu'elles sont stressées, qu'elles sont angoissées, que ce n'est pas bon pour le bébé est une éponge, qu'il ressent tout. Alors, est-ce que l'enfant, le bébé déjà in utero et puis après sa naissance, est-ce qu'en effet, voilà, c'est vraiment une éponge ou qu'est-ce qui peut-être pourrait faire barrage ou être protecteur pour lui ?
Alors, bien sûr, l'enfant, d'abord, c'est le résultat quand même de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. C'est déjà un être unique. Mm-hmm. Il est déjà, comme je disais, même dans le ventre, il est déjà dans une poche. Il se développe avec ses propres caractéristiques. Mais tout l'environnement est porteur. Alors, effectivement, un stress de longue durée et un deuil, par exemple, chez la maman, c'est pas mal. Mais c'est important qu'elle se fasse accompagner pour mettre des mots. Parce que si elle s'occupe d'elle, l'enfant, lui, fera son travail de bébé. S'il sent qu'elle est prise en charge et qu'on vient lui dire, à la limite, ta maman est fatiguée ou tu sais, mon chéri, même s'il ne parle pas, c'est comme ça qu'il va parler, c'est parce qu'on lui parle. Mais si ce sont des mots justes, des mots sentis, des mots en accord avec la situation, mais qu'on ne lui demande pas de prendre en charge, au contraire, il va faire son travail de bébé, il va se développer. Mais c'est pas... Voilà, l'aventure des parents...
Donc là, vous nous dites bien que ce n'est pas l'angoisse ou le stress en tant que tel qui font partie de la vie, c'est ce qu'on va en faire. Voilà. Et que le parent qui est en capacité de le nommer, de mettre de la distance, de se faire aider ou accompagner si besoin, c'est ça qui va protéger le parent et du coup protéger le bébé et l'enfant.
C'est-à-dire qu'il faut que les choses aient un minimum de sens. Donc il faut que c'est du sens pour la mère. Donc la plupart de nos aventures, on ne sait pas trop pourquoi, comment, mais un indicateur, ce sont nos émotions, nos stress, etc. Pouvoir en parler et le nommer simplement, ça permet effectivement de restituer à chacun ce qui lui appartient. Et c'est ça l'aventure. Et c'est le rôle de la maman. C'est de ne pas être honteuse ou se sentir coupable de ce qu'elle vit ou de ce qu'elle ressent. Mais quand c'est trop lourd pour elle, pour des tas de raisons, c'est important qu'elle puisse faire intervenir des tiers, ne serait-ce que pour l'aider, et le signifier à son bébé. Oui. Et s'il y a des moments vraiment de panique, il y a des personnes autour. Hein. Il y a un relais familial ou un relais... Mais nommer, continuer à nommer. Ça, c'était vraiment les grandes découvertes de Dolto ou de Caroline Eliashev, qui a travaillé dans les pouponnières. On s'est aperçu que la parole, c'est un peu ce qui signifie l'absence, la présence, qui permet de faire le lien avec le monde, même si on ne le comprend pas. À la fois, ça fait un lien et puis ça distingue l'un de l'autre. Ça défusionne. Donc, on ne prend pas en charge
Oui, ça permet à chacun de trouver sa place.
Trouver sa place, c'est ça. Donc, c'est ça la vertu du mot au début. Ce n'est pas forcément le sens radical, mais c'est la sincérité, l'authenticité, le rapport, l'accordage avec la réalité de ce qui se passe.
Oui, et puis dans la vie, tout n'est pas agréable. Donc évidemment que la mère va vivre des choses désagréables pour elle dans la relation avec son bébé et que ça fait partie de la vie.
Absolument. J'en profite là pour dire qu'on dit que la mère, c'est à la fois le bon et le mauvais. On parle de bonne mère, mauvaise mère. Elle est bonne, elle est mauvaise. C'est-à-dire que par elle arrivent des choses très agréables, manger, être changé, être bercé. Et arrive des choses très désagréables, c'est qu'elle n'est pas là, ou elle n'a pas compris ce qui se passe, mais il n'y a peut-être rien à comprendre. Et donc le bébé projette sur elle aussi bien des sentiments, des émotions négatives, des colères, que de l'amour. Mais il est vrai que le nourrisson projettera plus facilement ses frustrations, ses angoisses, ses colères, que l'amour, ça s'apprend plus facilement. C'est-à-dire que s'il est gratifié, s'il a ses expériences répétées de gratification, c'est-à-dire je suis choyé, langé, touché.
On a répondu à mes besoins.
Voilà, il y a un flux d'amour. Et c'est pour ça qu'on revient à la période stade oral, si vous en êtes d'accord. Parce que c'est par la bouche que ça se passe aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisqu'on se nourrit, c'est vital. C'est le premier organe qui permet effectivement d'être en contact avec la mère. Et c'est un organe, on est nourri aussi bien de lait, ça peut être le biberon aussi, mais que de nourriture affective. C'est-à-dire, c'est déjà par ce premier organe que passent charnellement les premiers liens.
Oui, là, ça m'évoque Jean-Marie Delassus qui parle de nourriture céleste.
Absolument.
Quand il parle de ce moment où la mère, que ça soit par le sein ou par le biberon, va nourrir son bébé, on ne remplit pas qu'un réservoir de voiture.
Voilà.
On donne certes quelque chose qui va permettre au bébé d'être pu, de ne plus avoir faim, mais on nourrit aussi sa faim relationnelle, sa faim affective.
Absolument.
Donc d'où l'importance de la présence de la maman dans ce moment-là.
Voilà. Et qu'elle ne lise pas ou ne regarde pas la télévision de préférence. Voilà, qu'elle soit présente à ce qu'elle fait. C'est ça qui est important, qu'elle prenne ce temps. Ça va assez vite. Hein. Souvent, voilà, les enfants sont sevrés, mais on en reparlera vers 3 ou 6 mois. Donc, qu'elle s'accorde et qu'elle accorde à son bébé ce temps, un peu de présence, même si très progressivement, d'autres de la famille peuvent donner le biberon. Mais au départ, voilà, parce que ça installe le rythme, la continuité, installe une certaine sécurité. Si l'enfant est constamment pris dans les bras des uns des autres, nourris par Paul, Pierre ou Jacques, ça peut créer une instabilité, une insécurité assez grande chez le nourrisson.
Oui. Là, vous soulignez l'importance de la continuité qui va construire cette sécurité intérieure, donc une maison interne solide. Ouais. Et là, vous sous-entendez aussi la question des changements, d'être attentif pour le bébé et puis même l'enfant quand il va grandir, qui est peut-être pas trop de changements ou que les changements soient accompagnés, évidemment.
Pas trop dans le désordre. Nommer, on prépare. Les enfants sont capables de survivre à tout, pratiquement. Mais pour les aider à faire face aux changements, ils sont équipés pour, c'est important de les accompagner et de les prévenir et éventuellement de faire les premiers pas. Rester 2 minutes avec la personne à qui on le confie, lui avoir présenté, éventuellement un peu avant. Voilà, pour que cette continuité de corps à corps passe, y compris par la parole. Voilà, donc pas s'angoisser en disant « je vais pas pouvoir scotcher à mon bébé ». Et il faut savoir aussi que, d'après les études, en gros, à 7 mois, ce qui est quand même encore très tôt, un enfant a déjà construit un minimum de sécurité, est moins paniqué, il y a moins de risques de perturbations psychiques majeures et physiologiques, puisqu'après, il somatise l'enfant. C'est sa façon à lui de dire ses difficultés. Mmh. On dit qu'à 7 mois déjà, 7-8 mois, il y a déjà une première construction qui lui permet de faire face à des absences un peu fortuites, toujours nommées, bon, si on veut que ça se passe bien, mais il est déjà pas mal équipé.
Pour revenir sur cette question du stade oral, alors vous nous disiez que la nourriture affective passe par la bouche, c'est aussi la question du réflexe de succion. Qu'est-ce que ça dit, ce réflexe du bébé?
J'allais dire que ça fait partie de son équipement physiologique constitutionnel. Cette succion, c'est, comme je disais, il découvre le monde. C'est le premier organe sensoriel qui lui permet de survivre en s'alimentant, mais qui lui permet aussi de découvrir tout. C'est pour ça qu'il porte tout à sa bouche. Il découvre des textures, des résistances, des goûts. C'est son premier organe préhensible.
Oui, en tout cas, là, ça m'évoque toutes les mamans qui peuvent être, justement, quand le bébé va grandir, commencer à 3-4 mois à peu près, mettre tout à la bouche. Ça peut être un peu inquiétant, la peur que l'enfant s'étouffe. Comment le parent peut accompagner son enfant à ce moment-là?
Là, il faut être vigilant, parce qu'effectivement, il y a un danger. Mettre soit des tout petits objets, soit des objets toxiques. Donc, effectivement, il faut veiller à ce que l'environnement du bébé ne soit pas rempli d'objets dangereux. Voilà. Et donc, être attentive à ça. Mais l'important aussi, là, c'est que c'est normal. C'est vital, c'est normal. C'est le premier organe d'appréhension et de compréhension du monde. Donc, l'important aussi, c'est la parole. C'est-à-dire, on peut interdire un enfant ou lui prendre un objet, mais éventuellement lui donner un autre, mais éviter de hurler ou disant que c'est sale. Parce qu'à ce moment-là, ça n'a pas de sens. C'est ni bien ni mal, puisque c'est une fonction naturelle. Mais comme il n'est pas, il n'a pas encore les moyens de discerner ce qui est bon, de ce qui est mauvais, ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas, c'est aux parents, voilà, par cette présence, et s'organiser pour lui faire un univers pas dangereux.
Oui, c'est adapté ça, quoi. Pour c'est lui, cette vigilance. Qui lui permette voilà, de développer
toutes ses fonctions. Voilà, lui donner un cadre sécurisé et sécurisant pour qu'il puisse laisser un peu libre cours à ses expérimentations voilà, vocales et sensorielles sans qu'il soit en danger.
Alors ensuite, l'étape suivante, c'est la question du sevrage. Alors souvent, il y a différents temps aussi de sevrage. Il peut y avoir un premier temps, le passage du sein au biberon. Et puis ensuite, voilà, le passage du lait, quel que soit le sein ou le biberon, à la nourriture solide. Qu'est-ce qui signifie ce passage du sevrage ?
Eh ben, ça fait partie des premières séparations. Qui, la plupart du temps, est très mal vécu.
Oui, mais tant par l'enfant que par ses parents.
Éventuellement par la mère. Ça peut être aussi un souhait. Certaines mamans, pour elles, c'est difficile d'allaiter ou de même de donner le biberon, éventuellement. Quand on donne le biberon, c'est plus simple parce qu'on peut avoir un père ou un relais.
Alors, il peut aussi y avoir des relais aussi, dans l'allaitement maternel.
Dans l'allaitement maternel aussi. Donc, il y a quand même une grande souplesse possible. Mais là encore, c'est la qualité de la présence, le fait que la mère... De toute façon, les parents imposent leur rythme. Ils sont pris dans des activités multiples, nécessaires, excitantes. Et d'ailleurs, c'est très bien pour l'enfant parce qu'il prend assez vite conscience que s'il est le centre du monde, ce centre se décentre assez souvent. Et c'est une expérience qui l'aide à se constituer, à faire ces expériences de petite séparation. Donc, ce premier temps est important. Là encore, il peut se situer entre 3 et 6 mois. Il y a des mamans qui allaitent éventuellement jusqu'à un an tout en travaillant. Travaillant, le font le matin, le soir. Donc après, c'est la combinaison, c'est aussi la mère qui en décide avec son environnement. Et l'enfant peut comprendre et s'adapter à beaucoup de choses, là encore, si ça fait un peu sens. Si c'est « je ne te rejette pas, c'est trop lourd, tu me fais mal, etc. » Mais c'est bien dehors, je vais aller travailler, c'est super, tu vas vivre d'autres choses. Voilà, sans oui, faire des kilos. Mais...
En tout cas, là, Elisabeth, vous nous dites bien que si c'est bien vécu par la mère et les parents, ça va l'être. En tout cas, l'enfant va pouvoir aussi y voir un intérêt, y trouver du plaisir. Et du coup, ça sera globalement bien vécu.
Il faut voir aussi quel est l'environnement. Est-ce que ce nourrisson a déjà des frères et sœurs ? La nature des liens que développent aussi les parents avec les frères et sœurs, éventuellement. Parce que ça peut être vécu comme des éléments de rivalité. Et un sevrage précoce dans un environnement, une fratrie qui peut apparaître comme concurrente pour l'enfant peut être d'autant plus mal vécu. Donc voilà, il y a aussi un ensemble de conditions familiales qui font que...
Que ça va déterminer la manière dont les choses vont se passer. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'allaitement, alors l'allaitement ou le biberon, en tout cas la manière dont les parents vont nourrir leur enfant, ce besoin de continuité. Alors, vous soulignez l'importance de la présence et de la disponibilité du parent dans ce moment-là. Ça me semble important de dire que si, de temps en temps, c'est le moment où la mère va passer un coup de téléphone, vous disiez d'éviter de regarder la télé, mais que ça peut aussi être un moment où on se relâche, où on s'apaise, si c'est occasionnel et que ça permet, en tout cas, n'empêche pas d'être en relation avec l'enfant, c'est pas nocif pour l'enfant.
Non. Je vous rassure, je ne fais pas du systématisme. C'est pour signifier si c'était, un comportement systématique.
Bien sûr.
Mais si la mère se sent bien en regardant.
Oui, si c'est un comportement systématique de mise à distance du bébé parce que c'est trop difficile.
C'est ça qui va vivre. Voilà. Bien sûr. Mais sinon, on est quand même très libre d'une certaine façon. Voilà, si la relation est bien installée, qu'il n'y a pas de difficultés particulières, on peut s'autoriser des variations et l'enfant va très très bien les vivre.
Par rapport au sevrage, là, je pense à tous les parents qui me disent voilà, le bébé va refuser le biberon, voilà, quand c'est un sevrage du sein au passage au biberon, ou va refuser la nourriture solide. Comment les parents peuvent accompagner ces refus, ces oppositions, en tout cas, voilà, qui sont souvent vécues comme plus difficiles dans cette période du sevrage?
Comment? Peut-être en faisant appel à des tiers, mais le conseil de base, c'est ne pas être dans la violence.
Donc de pouvoir entendre quelque chose, peut-être que l'enfant n'est pas prêt, de pouvoir s'interroger le parent s'interroge sur lui-même, peut-être que lui aussi n'est pas prêt, peut-être que c'est difficile aussi, parfois le fait que le parent nomme sa propre difficulté, ça va d'une certaine manière autoriser l'enfant à y aller, avoir confiance en l'enfant. En tout cas là, je pense à une maman justement l'autre jour qui me disait mon enfant va rentrer à la crèche, il doit absolument prendre le biberon, et où du coup il y a une angoisse que l'enfant ne se nourrisse pas à la crèche. Parce que pour l'instant, il refuse de prendre le biberon. Et du coup, il y a quelque chose là qui, petit à petit, du coup, se cristallise du fait de cette peur.
Alors, la colère et les manifestations de rejet, de refus, j'allais dire, c'est que ça peut rassurer, c'est que l'enfant est normal. Il n'est pas passif. À tout petit, il n'est jamais passif. S'il est tout le temps passif, là, il faut s'inquiéter.
Oui, c'est qu'il est en capacité de réagir au changement et heureusement.
C'est logique. Un être humain frustré, un être humain dérangé dans ses envies, va réagir éventuellement violemment. Mais ça peut être de le prendre positivement en disant « je vois que tu as du caractère, ça ne te fait pas plaisir, moi non plus, mais on va faire ensemble ». Et de toute façon, à partir du moment où la mère ne cède pas, de toute façon, elle a des obligations, elle va être amenée donc à emmener cet enfant. Mais il faut qu'elle en parle en disant il n'a pas l'air très content que je parte, ça m'ennuie un peu, mais je vous fais confiance. Et du coup, c'est aussi l'occasion pour le bébé de faire cette nouvelle expérience de séparation qui va pouvoir, comme dit, selon le mot d'Olto, le promotionner. Tout d'un coup, il passe dans un nouveau stade, nouvelles expériences, nouvelles sensations. Si c'est bien vécu, si c'est bien nommé, à moins d'avoir des difficultés, mais autres alors, une maladie, par ailleurs, faut rester attentif à ces manifestations-là. Mais si c'est uniquement de l'ordre de... comment une manifestation contre l'idée qu'il va perdre un petit peu son objet chéri, sa mère, puisqu'elle va s'éloigner et qu'elle va être un peu remplacée. C'est logique hein, qu'il... Et en même temps, il va se débrouiller pour installer d'autres sujets d'intérêt.
Oui, donc à chaque étape, finalement, il y a en effet à perdre, mais il y a aussi à gagner.
Voilà,
et c'est comment on va accompagner l'enfant de ce qu'il y a à gagner.
Voilà. Je voulais ajouter quelque chose justement sur la séparation on disait qu'on donne aussi des nourritures affectives avec la nourriture solide ou liquide. Là aussi, c'est l'apprentissage d'une première distinction chez l'être humain entre la notion de besoin. J'ai un besoin vital de me nourrir, mais comme j'ai une prime de plaisir avec ce lien affectif, je satisfais donc ce désir humain très profond d'être en lien et d'être aimé. Et que c'est très important aussi que les parents arrivent à faire une distinction entre je sers les besoins de mon enfant, mais que ces désirs de contact, ces désirs qui sont un peu abyssaux. on veut dévorer tout ce qu'on aime. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les expressions autour de aussi amoureuses, dévorer des yeux,
autour
dévorer
de la bouche,
je vais te manger, c'est croquer la vie à pleines dents, etc. Signifie bien qu'effectivement, ce premier besoin vital d'être nourri est toujours accompagné d'un désir d'être en lien et que c'est important de faire la distinction. C'est-à-dire que si un enfant pleure ou est grognon, faut pas lui donner à manger. Parce qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim.
D'où
les angoisses des parents. Oui. Non, on ne force pas un enfant à être nourri s'il n'a pas envie. parce que il va justement cette distinction entre j'ai besoin et je désire, c'est très important ce qu'il la fasse. Sinon, il reste dans une espèce de confusion.
Oui. En tout cas, là, vous soulignez à nouveau l'importance que le parent ait confiance dans son enfant, voilà. Confiance en ses ressources, en ses capacités. Il peut exprimer du refus, du désaccord, voilà, et pas vouloir qu'il y ait de changement et de perdre un peu ce qu'il aime ou ses objets d'amour. Mais il a les ressources et les capacités pour dépasser ça et absolument. Aller vers autre chose où il va découvrir d'autres choses qui seront source de plaisir, de satisfaction.
C'est inscrit dans son potentiel, cette capacité d'adaptation. C'est ce qui fait même le propre de l'homme. Et ça fait partie des apprentissages, c'est qu'il a aussi le langage ou l'écrit pour exprimer un désir ou un besoin. Donc, effectivement, c'est important que la mère arrive à distinguer les deux.
Ouais.
Mais c'est dans un échange, c'est pas le premier coup. Et puis, les enfants sont différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des gros besoins, d'autres un peu moins. Donc, il faut arriver doucement, progressivement, à décrypter cette particularité des besoins et des désirs de chaque enfant. Et même dans une fratrie, aucun des enfants n'aura le même comportement, la même attitude. Chacun est unique, quoi.
Bien sûr.
D'où l'idée, c'est bien d'avoir des indicateurs pour piloter, mais on ne peut pas exécuter un programme même avec des enfants de sa propre famille. Chacun est différent et donc il faut continuer à rester attentive en disant je ne sais pas tout et ce que je sais, il faut que je le réinterroge et que je l'ajuste.
Oui, en tout cas, ça demande pour le parent beaucoup de capacité d'adaptation, absolument. De souplesse, de réajustement, et ce qui est souvent un peu difficile pour le parent.
C'est pour ça que ça peut être intéressant qu'il ne se sente pas tout seul. Donc, un environnement humain bienveillant peut donner des avis. Mais ce ne sont pas des prescriptions. C'est pouvoir discuter avec les autres. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu en penses? Mais il faut aussi faire du tri par rapport à toutes les bonnes choses qu'on entend alentour.
On m'a beaucoup parlé de la relation à la mère. Quel va être le rôle du père durant cette période de la première année de l'enfant?
Alors, il est très important parce que c'est... ce qu'on dit, c'est la fonction paternelle. C'est-à-dire que son rôle, c'est justement d'aider la mère et l'enfant à se déscotcher l'un de l'autre. Voilà. Donc, c'est le tiers qui aide à cette séparation. Et en même temps, ce qui est important, c'est qu'il existe aussi dans les préoccupations et dans les paroles de la mère.
Oui, il n'est pas forcément présent physiquement, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il soit présent psychiquement. Parce que parfois aussi, il est présent physiquement, mais pas psychiquement.
Il peut être parti 6 mois, dans une mission au pôle Nord. Il ne sera pas là, mais il enverra des messages et la mère va en parler. Elle peut montrer des photos, même un tout petit. C'est-à-dire que dans le monde autour d'elle, il y a des humains qui comptent énormément pour elle et qui installent déjà l'enfant à la fois dans cette rivalité par rapport au monde environnant de la mère, mais aussi, ça va me faire des vacances, elle va s'occuper de quelqu'un d'autre que moi. Bon, pas dans les 3 premiers mois, ou les 6 premiers mois, mais assez vite. Voilà, c'est important qu'il y ait d'autres humains qui existent et qui font l'objet d'amour et qui ont cette fonction, qui sont reconnus comme tels.
Ouais.
Donc c'est important dans les nominations qu'elles nomment. Elle nomme le père, elle nomme les frères, elle nomme la famille.
Oui, c'est pas forcément un père. Voilà, l'autre jour, dans parentalité, on a parlé des mamans solo, où il n'y a pas de père, mais comment dans l'esprit de la mère, en effet, il y a de l'autre, il y a de l'ailleurs. Comment ça va se construire,
absolument,
quelle que soit la configuration familiale.
Ne serait-ce que des référents pour elle, c'est-à-dire une identité avec un père, un grand-père, un homme qui a compté et qui peut aussi représenter cette fonction. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de fonctions paternelles. Mmh. C'est pour ça qu'elle peut être remplie par différents personnages. Mais il faut que ça soit le même, pas 36 personnes. Et qu'elle le fasse exister en l'absence de sa présence physique, quoi.
Oui, alors peut-être juste un petit aparté sur les nouvelles configurations familiales. On voit bien aujourd'hui que cette question des fonctions maternelles et paternelles vont être rediscutées, peuvent être portées par le père, par la mère, les deux finalement. Il y a du paternel et du maternel en chacun de nous.
Voilà, mais en fait, Il n'en reste pas moins que c'est en gros la mère qui, encore aujourd'hui, porte les enfants.
Dans une grande majorité des cas.
Voilà, on n'a pas encore construit de...
Vous nous parliez tout à l'heure, Elisabeth, de cette période de 7-8 mois, où vous nous disiez voilà, qu'à ce moment-là, l'enfant a commencé à construire une sécurité intérieure qui commence à se manifester. Alors on sait, voilà, souvent c'est une période qui peut être difficile pour les parents, où l'enfant, voilà, dès qu'il va être confié, dès qu'il va y avoir séparation, va manifester, va pleurer. Donc c'est plus difficile pour les parents de confier leur enfant, où l'enfant va suivre le parent jusque dans les toilettes parfois. Ça sera plus difficile de se séparer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Là encore, je pense que c'est une étape de développement. Déjà installer la conscience que il est un peu seul, l'enfant. Il a commencé à s'identifier, il a commencé à se construire, il a commencé à se séparer un petit peu de la mère, psychiquement et physiquement. Et il y a quand même derrière, du coup, une inquiétude d'abandon aussi qui se manifeste différemment.
Oui, donc c'est l'expression des angoisses d'abandon parce que l'enfant a acquis une figure d'attachement déterminée. Alors, et donc c'est une étape qui est vraiment essentielle et nécessaire. Souvent les parents la vivent mal, sont inquiets, mais au contraire, voilà, c'est comment ils vont accompagner l'enfant à dépasser ces angoisses-là. Donc je dis souvent aux parents, voilà, il faut pas, faut fermer la porte des toilettes, mais derrière la porte, on peut continuer de se parler.
Toujours.
Faut pas éviter à l'enfant de vivre ces séparations, mais c'est comment on va l'accompagner. Voilà. Dans ces séparations-là.
C'est cette idée trouvée, et les parents peuvent être assez créatifs, qui est un fil qui soit jamais rompu. Alors quand ce n'est pas la présence physique, ça peut être une parole ou un tiers à qui on confie, mais là encore, en le présentant et en accompagnant cette transition. C'est l'idée de ne pas rompre le fil. Pour que l'enfant ne tombe pas et s'angoisse pas en se disant « je n'ai pas les compétences ». Enfin, c'est pas comme ça qu'il se le formule, mais il ne ressente pas cette fragilité qui tout d'un coup l'affole parce que effectivement tout seul, il ne peut pas faire grand-chose.
Oui, en tout cas, là, l'enfant comprend que la mère, le parent, les personnes qu'il aime s'en vont, mais qu'elles reviennent et que le lien, il persiste, même si on n'est pas en contact physique.
Voilà. Et que ce lien, il peut être rempli par des personnes de confiance, voilà, dans un univers connu. Là encore, ce n'est pas le confier à la voisine qu'on ne connaît pas et partir. Là, il peut y avoir énormément de panique. Éventuellement, j'aimerais bien parler du stade du miroir.
Justement, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe alors sur ce stade du miroir ?
Donc, c'est le moment où l'enfant passe d'image de son propre corps qui est inconscient, qui est imaginaire, à son image dans le miroir. Donc tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il est unique, il est entier, il est à la fois autre et le même. Et c'est pour ça que la présence d'un adulte est importante pour lui signifier que c'est bien son image, c'est bien lui, et en même temps, c'est pas lui. Donc tout d'un coup, cette conscience de se voir avec d'autres yeux de l'extérieur, qui transforme un peu sa relation à sa propre image et qui construit un nouveau narcissisme, une nouvelle image de lui-même.
Oui, oui, donc toutes ces images vont se rassembler en une seule. Il va y avoir une unification. C'est d'ailleurs souvent à cet âge-là que les enfants commencent à distinguer les différentes parties de leur corps, montrer leur nez, leur bouche.
Alors, ils les ont sentis jusqu'à présent et tout d'un coup, ils les voient dans une unité qui vient de l'extérieur, mais qui en même temps parle de lui. Mmh. Et c'est effectivement, ça fait partie de cette image qui à la fois les consolide, mais les rend encore parfois un peu seuls.
Mmh. Donc l'enfant, à ce moment-là, il prend davantage conscience de lui-même, il se sent différent de l'autre. Et du coup, souvent, c'est une période aussi où il va exprimer plus d'agressivité. Il va commencer à mordre, à taper, à griffer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Eh bien, il commence à manifester son autonomie et son désir de prendre. C'est une phase, voilà, d'appropriation un peu agressive du monde.
Mais que cette appropriation, elle peut être le signe de beaucoup d'amour aussi. C'est « je veux te dévorer parce
Absolument.
Que je t'aime tellement que je veux te mettre en moi et te manger ».
D'où l'importance, effectivement, de constamment lui apprendre la différence entre moi et l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est pas un objet à manipuler, à prendre, c'est un sujet. Donc, c'est les apprentissages d'une certaine distanciation entre le corps et la psyché de la mère. C'est-à-dire, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, je ne peux pas te prendre, je ne peux pas te dévorer. Mais il faut accompagner ça parce que là encore, c'est un processus normal. Et c'est pas, on le lit souvent en tant qu'adulte comme un indice ou un symptôme d'agressivité, de violence, alors que c'est une pulsion qui porte aussi à découvrir le monde d'une autre façon, plus active, un peu plus... Voilà.
Comment les parents, du coup, peuvent accompagner voilà, leur enfant qui mord beaucoup, qui tape beaucoup? Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer à l'enfant pour finalement l'accompagner dans l'expression de ses pulsions?
Voilà. Alors là, il y a des explorations peut-être à faire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des frustrations, des difficultés dans la famille, de boulot. Un enfant est aussi un symptôme. C'est-à-dire qu'il ressent très puissamment ce qui peut se passer, ça peut l'inquiéter et il peut le manifester par une agressivité. Donc c'est systématiquement qu'il mord. Voilà, essayer de mettre des mots, de voir ce qui se passe, de quelle est la source. Hein, c'est un symptôme. Donc je ne peux pas dire ça correspond.
Oui, si c'est ponctuel, on peut proposer des dérivatifs.
Absolument.
À l'enfant, des jeux où il va pouvoir taper un coussin, par exemple, pour détourner ses pulsions agressives. Si par contre, ça prend beaucoup de place, là, évidemment, il y a une exploration du sens et de ce que vient exprimer l'enfant à travers ça. En parallèle de tout ça, hein, de toutes ces premières étapes dont vous nous avez parlé, Elisabeth, le bébé développe et acquiert des compétences motrices. Hein. Il tient sa tête, il se met sur le ventre, il se retourne, il se met à quatre pattes, il se déplace, ce qui aussi va lui permettre de pouvoir petit à petit s'éloigner de ses parents et de s'individualiser. Dans tout ce que vous venez de nous dire, Elisabeth, dans cette période voilà, vraiment de la toute petite enfance, de 0 à 1 an, donc les parents ont vraiment pour rôle d'accompagner ce processus de séparation pour aider l'enfant à grandir, à devenir un individu à part entière. Cet apprentissage de cette séparation va se faire voilà, en accompagnant, en aidant l'enfant à gérer ses émotions, ses frustrations, ses attentes. Le parent aussi doit être à l'écoute de ses propres émotions. Donc cet accompagnement, cette attention portée par le parent va permettre à l'enfant de construire une sécurité intérieure, donc bah, de construire les bases de sa maison et des bases solides, d'avoir confiance en lui et en l'autre. Cette sécurité se construit également à travers la continuité, vous nous l'avez bien dit ça, et la cohérence des soins qui sont apportés à l'enfant. Et un enfant qui est sécurisé, c'est un enfant qui peut se séparer et donc explorer son environnement plus facilement. Puis vous nous l'avez aussi dit, hein, faut pas oublier que le parent il est humain, qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas tout puissant, qu'il est lui aussi composé d'émotions et la vie est composée d'émotions agréables, désagréables et que l'enfant va vivre aussi tout ça également, hein, qu'il ne s'agit pas d'annuler toutes ces dimensions-là. Et on parlait de la capacité du parent à s'adapter, hein, qu'un bon parent c'est un parent suffisamment bon pour son enfant, donc qui sait répondre aux besoins spécifique de son enfant. Ensuite, à cette période-là, on arrive à une troisième étape qui est l'étape de l'acquisition de la propreté. Hein. Donc, ce bébé est devenu petit à petit un enfant et c'est souvent une étape qui est aussi en corrélation avec l'acquisition de la marche au niveau moteur. Donc l'enfant découvre d'autres plaisirs que l'oralité. Voilà. Quelle va être cette autre source de plaisir et de satisfaction?
C'est-à-dire que l'enfant va être propre, il va pouvoir contrôler ses sphincters, et c'est aussi une victoire. Mais il ne faut pas oublier que c'est un mécanisme inscrit dans la physiologie de l'enfant. Tous les petits mammifères sont propres, en gros, sauf cas d'exception extrême, ils sont équipés pour devenir propres. Donc la propreté autour de 2 ans est quelque chose de normal. Mais comme toujours chez les tout-petits, tout ce qui se passe dans son corps, dans son esprit est en lien avec l'environnement humain et source de pression. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que ça fait plaisir ou pas à la mère qu'il soit propre. Donc il y a toujours un enjeu relationnel dans tous ces apprentissages et ces maîtrises et ces degrés d'autonomie. Donc c'est naturel, c'est normal, mais ça peut faire l'enjeu effectivement d'un jeu entre la mère et l'enfant, parce que ça devient aussi un nouvel objet de domination, de chantage, de contrôle. Je contrôle mes sphincters, donc je peux faire quand j'ai envie me retenir ou au contraire tout d'un coup déféquer de colère, par exemple. Donc c'est un nouvel enjeu et un nouvel instrument pour caractériser des relations mère-enfant. Donc il faut ni surinvestir cette fonction, elle est normale, ni sous-investir, c'est pas négliger, rien ne se passe, etc. Mais parler un peu factuel, quoi. C'est quelque chose qu'on produit, qui est destiné à être rejeté. On peut dire, voilà, il y a des endroits pour rejeter, parce que c'est plein de microbes. Mais pas ni pénaliser, ni comment dirais-je, faire honte, ni au contraire sacraliser. Vraiment, c'est la bonne distance à construire par rapport à cette nouvelle état d'autonomie qui se manifeste par cette nouvelle maîtrise du corps. Et effectivement, ça va avec monter les escaliers, être beaucoup plus à l'aise dans son corps.
En tout cas, là, ça m'évoque aussi souvent autour de cette question de la propreté. Il y a l'enjeu de l'entrée à l'école, puisqu'on dit, voilà, souvent à l'école, on dit il faut que l'enfant soit propre pour qu'il puisse être accueilli en maternelle, ce qui peut mettre beaucoup de pression pour les parents, qui vont mettre beaucoup de pression à l'enfant. Mais cette acquisition, évidemment, elle est progressive, mais elle peut aussi se faire très rapidement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir tout un temps de préparation. Et puis, l'enfant, généralement, il a compris qu'il doit être propre pour aller à l'école.
À partir du moment où
et deux jours avant, il va enlever la couche, ou la veille même, parfois. Donc, les parents qui peuvent être très inquiets qu'il n'y ait pas d'acquisition de la propreté au début de l'été, avec la perspective de la rentrée, les choses peuvent se faire aussi très rapidement.
Là encore, c'est une question d'enjeu relationnel. C'est-à-dire que l'enfant, comme pour les cris, les pleurs, le refus du bruit, bon, il va refuser d'être propre parce qu'il sait que ça... Il a eu l'intuition que ça va être l'occasion pour lui éventuellement de repousser ce temps de séparation avec le parent pour aller à l'école. Mais comme il est équipé pour, si de toute façon c'est bien vécu par les parents, du jour au lendemain, il peut être propre. Donc, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un apprentissage, c'est une compétence qui existe ou qui n'existe pas. Le reste, c'est un enjeu relationnel.
Oui, en tout cas, là, à nouveau, la question de la confiance, voilà, avoir confiance en son enfant et pouvoir le valoriser dans ses ressources et ses capacités.
Ce n'est pas une marionnette. Pas de la pâte à modeler.
Une fois que l'enfant a franchi cette étape d'acquisition de la propreté, ben, voilà, on vient de le dire, il entre à l'école. Et souvent, cette entrée voilà, autour de 3-4 ans va signifier une nouvelle étape pour l'enfant qui va regarder son corps, le corps des autres. Et il va se mettre à poser des questions. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est-à-dire que tout d'un coup, il est intéressé et ses sensations sont concentrées sur la découverte de son sexe, dans les sensations que ça lui procure, puisqu'il a découvert sa bouche, son anus, ses membres. Maintenant, tout d'un coup, il découvre son sexe. Non seulement il découvre son sexe et les sensations qui y sont associées, donc il a envie de le regarder, et de le toucher, et de vouloir toucher aussi celui des autres. Donc c'est vraiment un intérêt autour de son appareil génital. Mais c'est un moment aussi en particulier, parce qu'il découvre la différence des sexes. Et je crois que ça, il en avait une intuition, ne serait-ce que dans la parole ou le regard des parents et les projections. Il y a déjà une intuition forte d'appartenir à un sexe. On n'est pas des deux sexes. Voilà, on est l'un ou l'autre. Donc, cette découverte aussi, c'est une nouvelle étape parce qu'il y a quelque chose d'un deuil à faire. Il se fera à l'adolescence. Je ne suis pas homme et femme. Je suis soit homme, soit femme dans mon sexe. Et ça peut être un choc. Et il y a aussi une deuxième interrogation entre les filles et les garçons, c'est que le garçon, il a un sexe visible, érectible, qu'on peut toucher, alors que la fille, ses organes génitaux sont intérieurs, hypersensibles, mais voilà, pas visibles. Donc, entre les enfants qui ont fantasmé qu'ils avaient tous un sexe, parce que le sexe devient aussi un symbole de toute puissance, chez le garçon en tout cas. Et la fille peut être angoissée à l'idée qu'on ait coupé ou volé son sexe. Voilà. Donc c'est pour ça que le vécu de la découverte du sexe chez le petit garçon et chez la petite fille provoque une angoisse chez le garçon et un peu une frustration et éventuellement une tristesse chez la fille, dans un premier temps.
Ouais. Bon, on y reviendra dans l'épisode suivant, voilà, où vous allez continuer de nous expliquer ces différentes étapes du développement de l'enfant. Pour conclure, Elisabeth, voilà, quand vous nous avez bien dit que chaque enfant se développe à son rythme, hein, que chaque enfant est singulier, donc va vivre ces étapes-là à sa manière, que cette trame peut nous aider à penser, à comprendre, que ça va varier d'un enfant à un autre aussi, mais quels peuvent être les signaux lorsqu'on serait plus dans quelque chose d'inquiétant ?
Bah, la plupart du temps, c'est dans les comportements ou les maladies. Que peuvent se des comportements qui se répètent et qui ont l'air soit agressifs, soit un peu obsessionnels, ou une apathie, un retrait.
Oui, en tout cas, vous nous avez bien dit qu'à chaque étape, il y a des manifestations, donc on peut appeler des symptômes chez l'enfant, mais que souvent ces symptômes sont normaux, et ils ne sont plus, entre guillemets, normaux quand ils s'installent, quand ils perdurent, quand ils s'empirent, quand ils s'aggravent, quand ils prennent finalement toute la place. Donc ça peut être des difficultés à s'endormir, à se séparer, à supporter la frustration, à supporter les contraintes, à entrer en contact avec les autres, à s'ouvrir aux autres, des difficultés autour de l'alimentation et de la propreté, mais qui vont s'installer dans le temps. Quand est-ce que les parents doivent consulter ?
En gros, quand ils sont inquiets, qu'ils ne comprennent pas un comportement, c'est important qu'ils se réassurent eux-mêmes en convoquant quelqu'un qui est en mesure de leur donner quelques éléments de décryptage, et puis éventuellement voir avec l'enfant qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là. Très souvent, ce sont des moments de perturbation passagère, mais qui sont liés au développement, parce qu'il faut se séparer, il faut acquérir de nouvelles compétences, on peut être malade, on change. Donc, tous ces éléments peuvent perturber l'enfant, et c'est important dès que le parent a une inquiétude ou une interrogation particulière, sans tout de suite penser à la pathologie, se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe là ? J'ai envie d'en discuter pour accompagner. »
Oui, comme on disait, les signes d'alerte vont nécessiter bien souvent d'aller consulter, mais déjà aussi, si le parent se pose des questions et est inquiet, quelques consultations Exactement. Pour y voir plus clair et pour comprendre peuvent tout à fait l'aider. L'enfant se construit aussi dans l'environnement, voilà, dans le contexte, donc, dans tout ce qui va se passer aussi autour de lui.
Et c'est pour ça qu'il faut un tiers, parce qu'on peut focaliser sur le symptôme, mais que le symptôme peut renvoyer à une dynamique un peu systémique, familiale, qui, avec voilà, un tiers, peut être démêlé. Et là aussi, la parole suffit pour désamorcer des petits symptômes qui peuvent inquiéter le parent.
Comme vous nous l'avez si bien dit, Elisabeth, le développement de l'enfant se fait par étapes. Ces étapes suscitent parfois des difficultés, hein, tant pour les enfants que pour leurs parents. Mais elles ne sont pas forcément pathologiques, mais le signe qu'il se passe quelque chose chez l'enfant, qu'il grandit, et que ça, c'est plutôt bon signe. Comme le disait Françoise Dolto, hein, tout est langage et peut être décodé afin de mieux comprendre ce qui se passe pour l'enfant. Par contre, voilà, quand les parents sont inquiets, qu'ils voient que ces difficultés s'installent, c'est important de ne pas rester seul avec ça, de ne pas hésiter à aller en parler, à se faire aider et accompagner. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Elisabeth, est-ce que voilà, vous auriez des lectures ou un conseil à nous donner ?
Non, parce que j'ai beaucoup de textes théoriques, mais ça va encombrer les parents. Et les textes récents, il y en a énormément qui sont très avisés, très ajustés sur la pédagogie de la relation, sur les jeux, sur la description de mécanismes de façon assez simple.
D'accord. Alors, dans des choses en effet plus récentes, hein, moi je recommanderais Claude Almos. Il y a deux ouvrages qui reprennent cette question du développement de l'enfant, grandir et dessine-moi un enfant. Et puis, il y a aussi des livres pour ouvrir un peu voilà, la réflexion, des livres plus sur l'approche des neurosciences qui nous ont aussi, ces dernières années, apporté beaucoup d'éléments sur le développement du cerveau et du coup aussi la manière dont on peut accompagner les enfants et la manière dont ils se grandissent et se développent. Donc, il y a du docteur Daniel « Le cerveau de votre enfant », manuel d'éducation positive pour les parents d'aujourd'hui. Le docteur Mazot dans Le cerveau de mon enfant, la révolution des neurosciences, tout le développement de l'enfant de 0 à 6 ans. Et puis, il y a actuellement une série sur Netflix qui s'appelle Babies, qui voilà, aussi parle des étapes du développement de l'enfant, et un autre film qui s'appelle Le cerveau des enfants. Merci beaucoup, Elisabeth Pilâtre-Jacquin, d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et que vous exercez à Paris, dans le 3e arrondissement.
Merci.
On vous retrouve voilà, prochainement dans un deuxième épisode hors série pour continuer de suivre l'évolution des enfants. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.